Bonjour et bienvenue à Voilier sur les ondes. Moi, c'est Alexis Roy-Touchette. Avec le réchauffement climatique, le Nord canadien est de plus en plus accessible à la navigation. Depuis 2007, le passage Nord-Ouest s'ouvre de manière saisonnière aux autres navires que les brises-glaces. On ne parle évidemment pas ici d'une bonne nouvelle, mais tout de même de nouvelles opportunités. Le trafic dans le passage Nord-Ouest est en forte augmentation, bien que le nombre de navires y transitant soit encore plutôt faible. En 2017, 31 navires ont fait le passage, ce qui en fait, à ce jour, l'année record. Les bateaux de plaisance comptent encore pour moins de 10 % des transits, mais sont la catégorie de navires traversant le passage Nord-Ouest qui augmente le plus rapidement. Aujourd'hui, on jase passage Nord-Ouest avec Jean-Gilles Lemieux, qui a fait le transit en 2013 sur le voilier Akalef dont il est copropriétaire. Jean-Gilles, merci d'avoir accepté l'invitation.
Là, je réponds que ça me fait plaisir, c'est ça?
C'est à ce moment-là qu'on répond que ça fait plaisir, exactement.
Bon, ça me fait plaisir.
Si tu me le permets, là, vu qu'on a navigué ensemble, qu'on se connaît bien, je proposerais qu'on se tutoie pour l'entrevue.
Ah, OK. Ben oui.
Pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est loin d'être nécessaire pour écouter cette balado, mais si vous avez la possibilité de vous ouvrir une carte du Nord canadien en écoutant, ça pourrait vous permettre de mieux situer les anecdotes que vous allez entendre. Alors, allons-y. Jean-Gilles, avant d'entreprendre le projet de naviguer le passage Nord-Ouest, tu avais déjà une traversée de l'Atlantique en solitaire à ton actif. Pourrais-tu juste nous en dire un peu sur cette expérience?
Écoute, ça a débuté en 2000. Je venais de finir une traversée du Sahara qui était assez éprouvante, chaleur, vraiment... Tu sais, pendant 3 mois, t'as la gorge sèche. Puis là, j'arrive, j'étais seul, j'arrive au bord de la Méditerranée. Puis là, je vois la beauté, le bleu, la beauté des eaux bleues. Puis je me dis, moi, je vais naviguer sur ces eaux-là bientôt. Alors, débute mes premières expériences après ça en mer, sur le voilier d'un de mes amis, Gilles Hiergeau, avec les copains. Jean, c'est le bateau Murmure 2 et le bateau de sa famille. Et ils le mettent en vente. Donc, j'ai acquis ça, Murmure 2, qui est un très beau Westerly. De 1971, un 10 mètres, un catch, très très beau. Alors, moi j'ai 40 ans, j'ai ce bateau-là, je commence à le préparer avec l'aide de Jean, puis les copains. Quelques années après, donc en 2005, je me décide à partir pour Lisbonne, pour le Portugal, pour l'autre côté de l'océan. Et là, ça a été un voyage fabuleux. Et quand je suis arrivé finalement en Méditerranée, donc j'ai revu le bleu que j'avais rêvé quelques années auparavant. Puis, ça c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, oui, mais ça situe un peu là, dans ton parcours de voile. Fait que là, tu rêvais au bleu de la Méditerranée. Puis là, quelque chose se passe, puis tu rêves au blanc de l'Arctique. C'est quand que tu as commencé à penser à monter en latitude?
En fait, ce qui m'a inspiré ce départ-là, c'est Sedna, le Sedna 4, qui avait fait cette traversée-là en 2002, okay? Donc quelques années auparavant. Puis aussi, en m'informant, j'ai aussi lu que Réal Bouvier, un très grand marin québécois que je ne connaissais pas jusqu'à 2012. Réal Bouvier a fait la traversée du passage de 76 à 78 à bord d'un petit voilier de plaisance de 12 mètres, le J.E. Bernier II. Et ça, c'était tout à fait une autre histoire parce que dans les années 70, c'était congelé bord en bord et ils ont réussi en trois saisons à faire le passage. Et ça, c'est un grand fait d'armes québécois. Et ça m'a montré que, bon, lui, il a réussi à le faire dans un 12 mètres, OK, dans les années 70. Moi, je suis capable de le faire dans un plus petit bateau, peut-être, dans les années 2000. Alors, c'était l'inspiration et le coût pour partir dans le passage.
Fait qu'à partir de là, tu te dis, bon, c'est possible, j'ai envie de le faire, puis là, tu commences à penser à ça. Quand on parle là, de passage du Nord-Ouest, on fait référence à quoi plus exactement? On imagine là, le nord de l'Arctique canadien, mais ça part où? Ça finit où?
Ben, écoutez, il y a plusieurs définitions. Notre encyclopédie canadienne dit que, je vous le cite, le passage Nord-Ouest est un corridor maritime qui traverse l'archipel arctique canadien le long de la côte nord de l'Amérique du Nord. Alors, c'est exactement ça. C'est notre troisième littoral. On a l'Atlantique, le Pacifique et on a l'Arctique. On est extrêmement chanceux. L'autre définition, ça vient du Scott Polar Research Institute de l'Université de Cambridge, qui eux disent que la traversée maritime complète du passage Nord-Ouest est réalisée par l'océan Arctique entre les océans Atlantique et Pacifique, les entrées et sorties étant à proximité du cercle polaire, dans les détroits de Davis à l'est et Bering à l'ouest. Et d'ailleurs, cet institut-là a une liste et il mentionne toutes les traversées qu'il y a eu par peu importe le type de bateau, là, à partir de 1905-1906 par Amundsen jusqu'à 2019. Et eux, ils avaient recensé à ce moment-là 314 traversées complètes par une ou l'autre des sept routes navigables. D'ailleurs, à Calef est répertorié à la ligne 189 du registre. J'en suis très fier. OK. Et il est mentionné qu'il a emprunté la route numéro 5, c'est-à-dire celle qui passe par les détroits de Belleau.
Oui. Bien, fait que dans le fond, donc le passage dans l'Arctique au nord canadien, différentes routes possibles, donc sept qui seraient recensées par le Scott Polar Institute. Vous, votre voyage, il vous mène donc de Dorval, si je ne m'abuse, où tout commence, jusqu'à Terre-Neuve, ensuite le Groenland, avant de franchir le cercle polaire. Puis là, je me demandais, dans le fond, ça fait quand même un bon détour là, de passer par le Groenland pour finalement revenir au nord canadien. Pourquoi cette route?
Le gros avantage de cette route pour un voilier, c'est de profiter des courants qui sont anti-horaires dans la mer de Labrador, du détroit de Davis. En gros, Alexis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une partie des eaux chaudes du Gulf Stream, okay, est déviée par la pointe sud du Groenland, ce qui fait remonter le courant vers le nord, le long de la côte ouest du Groenland. Puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle là-bas, les températures sont relativement douces là, pour la latitude du Groenland. Puis c'est presque chaud, je vous dirais, il faisait 15-16 degrés.
Oui, puis donc, là, tu peux monter à combien de degrés de latitude? Là?
Écoute, il faut se rendre jusqu'à Baie Disco. La Baie Disco, qui est, j'ai pas devant moi la latitude, mais c'est
peut-être...
Mais
on parle de comme 50 degrés et plus,
ouais,
60.
Pas loin, pas loin de 60, ouais, 55-60 facilement. Pourquoi la Baie Disco? Parce que la baie de Disco... Non, il n'y a pas de discothèque là-bas. Là. On l'a cherché, on ne l'a jamais trouvé. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de icebergs. C'est une pouponnière de icebergs. Il y a deux super glaciers qui pondent ces icebergs-là dans la baie. Et le courant qui longeait le Groenland vient chercher ces icebergs-là qui est rendu au nord, sont déviés vers l'ouest à cause de la masse d'air froid et d'eau froide arctique. Ce qui fait que donc les icebergs se dirigent vers la terre de Baffin. Le courant du Labrador qui, lui, descend vers le sud amène ces icebergs-là, donc le long de la côte du Labrador, ce qui fait que donc tu as ce circuit-là anti-horaire. Et remonter se rendre directement au passage par la côte du Labrador, c'est en soi un exploit. Parce que ça peut être très, très, très dangereux. Là. Mm-hmm.
Donc, en prenant la route par le Groenland, finalement, courant favorable vers le nord, et on évite la majorité des icebergs qui, eux, longent la côte du Labrador.
Tout à fait. Puis l'autre très, très bonne raison, OK, c'est que David Berger, qui est rendu mon ami, mais que je ne connaissais pas en 2012, puis qui était le propriétaire à 100% d'Acalef, par des rencontres d'amis, j'ai donc acquis la moitié des parts d'Acalef parce que David mentionnait que lui, pourquoi il avait acheté Acalef. Acalef, c'est un super bateau fait pour les hautes latitudes. Pourquoi il a acheté Acalef? C'était pour se rendre au Groenland. Donc, comme moi, mon intérêt, c'était d'aller dans le nord-ouest et je devais passer par le Groenland, nos deux projets se sont joints dans une seule expédition.
Mm-hmm. Bon, fait que ça fait deux bonnes raisons pour prendre cette route-là.
Tout à fait.
Donc là, on parle de, bon, en plus d'aller aux destinations où David voulait aller, d'éviter une majorité de icebergs qui, bon, on le sait bien, en général, sont dangereux pour la navigation. Moi, par exemple, j'ai jamais navigué là, dans des eaux où il y aurait des glaces et des icebergs. Quelle taille ça peut atteindre, puis pourquoi plus précisément on considère que c'est particulièrement dangereux pour la navigation un iceberg?
Ben écoute, en fait, il y a approximativement trois grosseurs de glaçons. Okay? Il y a les gros puis les très gros qui sont les icebergs. Okay? Les icebergs, le problème qu'ils ont, c'est que ils sont immenses. Ok. Puis dès qu'on est dans une nuit sans lune, où il y a un peu de brouillard, on ne les perçoit pas. C'est comme une masse fantomatique qui nous apparaît comme ça dans l'étrave. Puis ça peut avoir pas loin d'une dizaine d'étages, OK, à surface de l'eau.
Mm-hmm.
Fait qu'imaginez-vous ce qu'il y a dans le sous-sol, ce qu'il y a sous l'eau. Il y a 90% de la masse qui est sous l'eau, donc c'est gigantesque. Donc, eux sont silencieux, il faut les voir. Les radars, oui, les radars les attrapent, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant. La meilleure chose, c'est d'être aux aguets. Là. Quelqu'un qui est à l'étrave, qui s'assure là, qu'il n'y a pas de iceberg dans la zone où on navigue.
C'est que tu n'es jamais certain, finalement, y a-t-il un obstacle devant moi ou il n'y en a pas?
On ne sait pas. Puis, quand on regarde les cartes de glace, parce que la garde côtière émet des cartes de glace pour la concentration de iceberg, surtout dès le mois de mai, juin, juillet, parce que c'est là qu'est la grande saison des icebergs, OK? Alors là, ça te donne une idée, bon, ben ici, il y a une possibilité d'avoir une centaine de icebergs dans 1 degré carré. Donc, c'est comme ça que ça te met un peu sur l'oreille, là, oh, ici, il faut faire très attention, alors que du côté Groenland, il n'y en a pas.
Mm-hmm. Okay.
Donc, mais le deuxième glaçon, qui est le petit frère, okay, qui est un éclat d'iceberg, qu'on appelle les Bergie Bits. Eux autres, là, ils ont 3-5 mètres visibles hors de l'eau. Puis je veux dire, une affaire, c'est très impressionnant quand tu vas approcher de ton franc-bord, parce que 3-5 mètres de haut, ça commence à être pas mal. Et tu ne sais toujours pas ce qu'il y a en dessous. Et donc ça, c'est très dangereux. Mais les pires, je te dirais, c'est les growlers. Eux autres, c'est des petits glaçons de moins de 2 mètres, OK, qui sont encore soit détachés des icebergs ou soit de la banquise. Et eux, non seulement on ne peut pas les détecter au radar, mais même en plein jour, quand tu regardes l'océan, si la mer est le moindrement désordonnée, là, tu n'arrives même pas à le repérer. Donc, c'est arrivé à quelques reprises là, qu'on entendait des bruits sourds, là, boum, sous la coque de Calef. On savait que, oups, ici, il y avait un petit growler là, qu'on n'a pas pu voir et qui a frappé la coque. Donc, c'est extrêmement dangereux.
Oui, c'est une autre game quand les obstacles que tu peux rencontrer sont pas cartographiés. Puis dans le cas des growlers, comme tu dis, finalement, sont plus dangereux parce que, bon, bien qu'étant plus petits, justement, on les voit pas de loin. Le radar, probablement, les
impossible.
Voit pas.
Impossible, peu, le radar. Impossible.
Exact. Donc là, bon, on comprend qu'on essaye d'éviter la route des icebergs. Quand même, le 6 juillet, vous deviez quand même passer, donc, le détroit de Belle-Île. Détroit de Belle-Île, qui est entre Labrador et Terre-Neuve, finalement. Et là, on le sait, là, il converge une importante quantité d'icebergs, mais bon, pas le choix, faut passer quelque part. Tu me racontais ça, là, pourrais-tu nous raconter votre rencontre avec un iceberg de nuit?
Oui, alors je vais te lire un extrait du journal. Effectivement, bon, avant de lire l'extrait, juste préciser que effectivement, le détroit de Belle-Île, c'est l'endroit peut-être le plus dangereux pour rencontrer des icebergs parce que le courant du Labrador qui amène les icebergs s'infiltre dans le golfe Saint-Laurent par le détroit de Belle-Île. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant. Donc, l'extrait. Hier, au bout de mon quart de nuit, un spectre blanc nous apparut soudain dans le brouillard. Creusant à peine l'horizon, il grossissait à vue d'œil, ou plutôt, il s'avançait vers nous, silencieusement, insidieusement. C'était un bloc de glace immense comme un immeuble de 2 étages de haut, et de combien de sous-sols sous l'eau, à la dérive dans la nuit. À moins de 200 mètres, à Calef, sortant de sa froide torpeur et dans un retournement furieux de tout son corps sur son bâbord, lévita de justesse. L'iceberg passa lentement, poursuivit paisiblement sa marche funèbre vers les hauts fonds de son cimetière, puis disparut dans le brouillard comme il était apparu. Ça me laissait le sang glacé.
Ça, t'écris ça dans ton journal de bord après l'expérience?
Le lendemain, je crois. Ouais. Sur le coup, on était trop, on avait trop peur de rencontrer d'autres icebergs. C'était une nuit effectivement sans lune, petit brouillard comme on a souvent à Terre-Neuve. Hein. Alors, c'était vraiment très 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 dangereux, mais très émouvant aussi de voir ça là. Parce que ce iceberg-là, sa fin plutôt, allait de s'échouer quelque part sur la côte du Labrador ou sur Terre-Neuve. Là. C'est ça son cimetière.
Tu me racontais une autre histoire, là. On dit, bon, un iceberg, c'est peut-être mieux pas trop s'en approcher parce que c'est un peu imprévisible. Des fois, ça verse. Des fois, il y a des bouts qui peuvent casser. Mais en même temps, ça doit être assez magnifique. Puis, tu me racontais que tu étais allé toucher l'iceberg là, à bord de ton Zodiac. Pourrais-tu nous raconter ça également?
Ce que j'ai ressenti quand nous sommes allés voir ce iceberg-là, comme je dis, avec toute la précaution, là, j'ai ressenti vraiment la vie, et ça, faut que vous le fassiez un jour, là, c'est magnifique. Donc, je lis. À la sortie de Road Bay, nous sommes approchés tranquillement à la vitesse d'un frisson sur l'eau dans notre frêle embarcation. Sous le sein blanc encore ruisselant, j'ai tendu ma main, paume vers le haut. Elle m'a laissé boire quelques gouttes de sa source. Puis j'ai approché mes doigts pour l'effleurer comme on touche le front d'une mer. La peau durcie et lissée par le soleil, comme la plus douce des peaux. Elle m'a laissé la caresser, la géante blanche, le dos rond comme une colline, replié comme une grande ourse de marbre. J'ai ressenti alors la vibration profonde, sourde et puissante de tout son corps massif. Et les craquements lointains de chacune de ses veines glacées, de chacune de ses histoires. Elle m'a laissé. Ou plutôt, elle semblait dormir, plongée dans son vague sommeil qui l'amènerait au bout de sa route, peut-être sur quelques récifs du Labrador, peut-être sur le rivage de quelques îles du Sud. Nous nous sommes éloignés dans un frisson, le nôtre, de peur de l'ennuyer, de la réveiller, et qu'elle s'étire et se retourne, nous entraînant alors avec elle à la profondeur de son rêve, de notre cauchemar. Je l'ai laissé.
C'est vraiment beau. C'est pas un journal de bord ultra méthodique du capitaine Blasé, ça?
Il y a des colonnes de chiffres.
J'imagine que...
Et oui. Il y a aussi ces images-là qui me sont venues et voilà, j'espère que justement que les personnes écoutant le balado vont pouvoir entrer dans ces images-là. C'est ma façon à moi de représenter mon voyage.
Donc, le bateau, tu avais donc déjà un bateau, comme tu nous expliquais plus tôt, Murmure, dans ton Westerly, mais tu as décidé, malgré le fait que tu le trouvais très marin, qu'il serait pas adéquat pour toi pour faire le passage du Nord-Ouest. Pourquoi?
Ben, écoute, le Westerly, Murmure est un Westerly qui est fabriqué en Angleterre. C'est un bateau costaud, très marin, trapu, qui est fait pour la mer du Nord et l'Atlantique. Sa quille est lourde, est à fond plat, ce qui lui permet d'échouer sur à peu près n'importe quelle plage. C'est vraiment des bateaux faits pour la côte atlantique, là, la France et l'Angleterre. Sa coque en fibre de verre est très épaisse. Hein. En 1971, il n'était pas encore à optimiser les épaisseurs de coque. Donc, c'est une coque qui a 3/4 de pouce à grandeur. Donc, c'est vraiment très rigide, très solide. Je me suis toujours senti en sécurité, mais je me disais, pour affronter les glaces du passage, j'osais pas. Sa coque aurait sûrement requis des renforts importants. Puis, effectivement, à la lumière de mon expérience dans le passage, ça aurait pu être problématique, du fibre de verre.
Oui.
Non protégé.
Donc, finalement, tu cherches un bateau, puis là, justement, tu rencontres David, qui est propriétaire de Hakalef à ce moment-là. Et là, tu décides de t'engager dans ce projet-là avec ce bateau-là. Pourrais-tu nous décrire Hakalef, puis pourquoi ce bateau-là?
C'est une œuvre... sur la fin de la vie de Philippe Harlé. Philippe Harlé, qui est un très, très grand architecte naval français. Donc, Hakalef, c'est une de ses dernières œuvres qui est vraiment là, mature. C'est un dériveur intégral très robuste qui est conçu pour la navigation hauturière sur toutes les latitudes et même les plus hautes. Malheureusement, ce que Murmure n'est pas, comme je te disais. Sa coque, une coque à bouchon vif, en aluminium, qui est d'une beauté, tu as pu toi-même la voir, là, c'est une sculpture, c'est vraiment une œuvre d'art, cette coque-là. Et c'est une coque à bouchon vif, donc qui permet une très, très grande stabilité par tous les temps et toutes les allures. Puis c'est une forme très fuselée aussi, qui fait que pour manœuvrer dans les champs de glace, c'était pas de toute facilité. Mais sa taille nous a vraiment, un peu comme un couteau, là, nous a vraiment permis de pas avoir peur puis de briser quelques glaçons. Autre chose aussi très importante, c'est que Hakalef a un fond plat qui est lesté, OK? Puis sa dérive centrale, qui est la bascule, nous permet nous autres d'évoluer dans des eaux de jusqu'à seulement 1,5 mètre de profondeur. Et il est fait aussi pour s'échouer sur à peu près n'importe quelle plage, n'importe quelle surface. On aurait pu même, à la limite, le hisser hors de l'eau comme un traîneau. C'est un 4x4 de la mer, là, incroyable. Puis ça, c'est un grand avantage quand on navigue dans l'Arctique, parce qu'on sait qu'il y a 90% des eaux qui ne sont pas sondées. Donc, avoir un bateau qui permet l'échouage comme ça, imprévu, c'est quelque chose d'assez fantastique. Puis, autre chose, dernière chose, Alexis, Hakalef, il y a un plan de voile qui est équilibré. Son mât est assez court pour la longueur. C'est un 45 pieds, mais c'est une longueur. Son mât est assez court, ce qui permet... C'est un bateau qui est à la limite d'être sous-toilé. Donc, ça nous permet de pouvoir manœuvrer facilement par tous les temps. C'est pas un bolide, mais c'est un bateau qui va loin. Et ça, on voulait avoir cette sécurité-là pendant tout le voyage.
Oui, je suis bien d'accord pour l'avoir vu. Là, effectivement, un magnifique bateau. Je suis curieux parce que vous avez croisé finalement dans le passage plusieurs bateaux qui était en fibre de verre, dont même, tu me disais, un catamaran. Ça peut surprendre plusieurs, là, dont moi. Est-ce que tu penses, malgré ça, malgré que tu as vu d'autres bateaux comme ça dans le Nord, que l'aluminium a constitué un réel avantage, puis pourquoi?
Béton aluminium, là, ça va demeurer pour moi le meilleur choix pour naviguer dans les hautes latitudes. Léger, durable, solide, ça résiste très, très bien aux impacts. Et la grande différence, c'est que avec l'acier, c'est que l'aluminium peut encaisser des coups de glaçons là, en se déformant et non pas en se déchirant comme peut faire l'acier. L'aluminium permet cette malléabilité-là. Et autre avantage sur les fibres de verre, c'est que les très basses températures de l'Arctique peuvent aussi fragiliser les fibres de verre, alors que l'aluminium n'a pas de souci. Autre chose, l'aluminium, il ne rouille pas. La seule oxydation qui se forme, c'est celle à sa surface. Puis ça protège des éléments. Ce qui fait que, en tout temps, tu peux inspecter la coque. S'il y a un problème, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de peinture, tu as l'aluminium qui est vraiment là, qui est accessible, qui est net. Et ça, tu peux rapidement évaluer les dommages si jamais tu as heurté quelque chose. Puis autre chose, c'est que comme il est facile à entretenir, ben si tu foutes l'hiver, un, deux, trois hivers, ben tu n'as pas à soucier de la peinture, de la rouille, quoi que ce soit. Et pour ce qui est par contre de Libellule, le fameux catamaran, ben c'était aussi un magnifique vaisseau de 45 pieds. Donc imaginez un catamaran de 45 pieds. Le salon, il est grand comme mon petit studio ici. C'était comme dans un hôtel, c'était vraiment fabuleux. Puis une chose, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il appartenait à un banquier suisse. Alors lui, les renforts en Kevlar, les autres aménagements, il y avait même deux marins avec lui, un équipage de marins professionnels. Donc, écoutez, c'est ça, c'est un banquier, donc avec sa petite famille.
Il y avait les moyens
Puis
de mettre son catamaran en état pour le Nord.
oui, puis il avait aussi les moyens d'être évacué en tout temps. C'est sûr que lui, là, avec un appel, là, il se faisait héliporter là, pour sauver des glaces, j'en suis convaincu. Mais la question qui demeure encore, c'est, des fois je me dis, est-ce que c'était vraiment un Suisse?
OK.
Parce que par deux fois, il m'a demandé l'heure.
C'est louche. Il y a anguille sous roche avec ça. Ouais, mais finalement, les bateaux en fibre de verre, bon, c'est peut-être un add-on, on le sait jamais. Peut-être que ça peut fonctionner souvent, mais à quelques reprises et trop souvent, ça ne fonctionnerait pas. Ils ont quand même réussi à faire le passage cette année-là. T'as-tu remarqué des défauts, des moments où ils ont eu vraiment peur, puis que toi, tu te sentais plus en confiance?
Ben, écoute, premièrement, un catamaran. Hein, un catamaran, imaginez deux flotteurs. Tu rentres dans la glace parce qu'on est rentré dans des concentrations de glace assez importantes, là. On essayait de se limiter à du 3 sur 10 de concentration, mais parfois c'était beaucoup plus que ça. Donc lui, ses flotteurs, quand tu ramassais un morceau de glace, il fallait absolument qu'il évite de prendre cette glace-là entre ces deux flotteurs. Donc c'était le gros. Moi, j'avais peur pour qu'il reste pris là, en quelque part. Là. Puis d'ailleurs aussi, c'est pour ça qu'il y avait aussi deux bons marins avec lui pour pouvoir s'assurer de naviguer en tout. C'est un bateau. D'ailleurs, il se rendait à Hawaï. C'était vraiment un bateau qui était fait pour Hawaï. Mais soit dit en passant, j'ai surtout vu des bateaux en acier dans le nord.
OK.
Bateaux en acier. Quelques-uns en aluminium, mais à part Libellule, peut-être un autre ou deux autres en fibre de verre, mais très, très, très peu. En 2013. Maintenant, il y a sûrement moins de glace dans le passage, donc c'est peut-être plus pensable d'y aller avec son bateau.
Le 29 juillet, donc, vous êtes à quelques milles de Pond Inlet. Donc, c'est votre premier port depuis le Groenland, mais la glace vous empêche d'y arriver. Donc, c'est peut-être encore, elle s'est pas dissipée encore. Donc, vous attendez au mouillage au nord-est, là, donc, de l'île de Baffin pour situer un peu. Et là, vous croiser un bateau qui a, lui, sa coque est solide, pas de doute, le brise-glace des Groseilliers, donc brise-glace de la garde côtière. Et là, l'équipage vous invite à bord. C'est quoi la première chose qu'ils vous proposent, puis comment se déroule la rencontre?
Alors, donc très gentil, le second vient nous voir en Jadiag avec une petite équipe, il nous invite à bord et il nous dit en passant, mais écoutez, arrivé à bord, on vous offre une douche. une douche chaude. Moi, à la blague, je leur ai dit que je les avais remerciés pour avoir été le bénéficiaire privilégié d'une de leurs grandes œuvres humanitaires, parce que ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas pris de douche. Parce qu'en Arctique, les escales se comptent vraiment sur les doigts de la main, okay, d'une seule main. Les escales où on peut, en tant que bateau de plaisance, aller. Donc, il y a très peu d'escales. Mm-hmm. Donc, les douches, l'avitaillement en bouffe fraîche, le plein diesel, ça compte sur les mêmes doigts de cette main-là.
La même main.
Puis quand je suis monté à bord, c'est ça, quand on est arrivé dans cette baie-là, près de Pan Inlet, on a vu donc, ce bateau rouge et blanc-là, qui est déjà magnifique quand tu le vois de loin. Mais imagine, quand tu rentres à bord, là, c'est d'une beauté. Tous ceux qui aiment les bateaux, là, été probablement comme moi, comme un petit gars, là, c'était foi. C'était facile à décrire.
Ils ont tout ce qu'il faut à bord.
Écoute, même le petit hélicoptère, magnifique, un petit jouet rouge là, qui peut se replier, qui a son hangar, tu voudrais faire un tour à bord, là, puis aller te poser sur une banquise. Là. Puis en plus, c'est des gens formidables, d'une gentillesse incroyable. Les hommes, les femmes là-bas, ils étaient vraiment, vraiment. Il faut dire aussi qu'on était un peu, pas un cadeau pour eux, mais on était comme pas un divertissement, mais on était un événement. Hein,
exact, même. Exact. Autant pour eux que pour vous, finalement.
Oui, parce que les visites sont assez rares quand ils sont en mission là-bas. Mais c'était vraiment là, inoubliable comme rencontre.
Donc, vous étiez un cadeau pour eux après les douches.
Oui.
ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment généreux de leur part quand même de visiter ça dans l'Arctique, un brise-glace comme ça. Vous, dans le fond, donc tu n'étais pas tout seul pour ce voyage-là. Tu avais un équipage que, si j'ai bien compris, a changé à quelques reprises. Qu'est-ce qui fait pour toi, après ton expérience, un bon équipage pour ce type de voyage? Puis, tu pourrais-tu nous en dire un peu en même temps sur les autres personnes qui ont fait le voyage avec toi?
Il ouais. Y a environ, il me semble que j'ai compté une quinzaine de personnes qui sont venues à bord, qui sont parties, qui sont arrivées. Donc, une quinzaine de personnes. Et ces personnes-là, moi ce qui s'est avéré très important après au retour, c'est que ces personnes-là, je leur ai fait confiance. Et en fait, c'est la base quand tu pars dans ces grands voyages-là où il n'y a pas d'arrêt d'autobus au coin de la glace, là, tu es pris avec du monde longtemps. Il faut que ce soit des gens qui aient faut que tu aies une complicité. Donc, la majorité, c'était des copains, c'était des amis en qui je connaissais. J'avais déjà voyagé avec eux, j'avais fait du bateau avec eux. Je savais que telle personne. Donc, il y avait une complémentarité, mais non seulement ça, je voulais partager avec eux. Pour moi, c'est un fabuleux cadeau de la vie, ce voyage-là. Je voulais le partager avec mes amis. Et je voulais qu'eux embarquent s'ils voulaient. S'ils rêvaient aussi de venir. Ça, c'était l'autre chose importante. C'était pas pour prendre un touriste qui. Je voulais qu'ils prennent vraiment conscience du voyage. Ils ont fait des recherches eux-mêmes. Ils ont contribué non seulement à la préparation du bateau, mais aussi à trouver des endroits où aller. Ils ont fait des recherches. Ils ont contribué vraiment au voyage. Mm-hmm. Et ça, c'était hyper important. Puis, chose aussi qui s'est avérée, c'est que moi, je suis un capitaine, là aussi, tu as eu l'occasion de voir ça, là, où je m'assure toujours que c'est un travail d'équipe, c'est un équipage, c'est une seule équipe. on prend des décisions ensemble, on regarde, on analyse toutes les contraintes, toute la météo, les glaces, etc. C'était des réunions 2, 3 fois par jour, comme ça, pour faire avancer le bateau. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, je pense, avec intelligence, parce qu'en gang, on était plus intelligent que tout seul. On a réussi à faire cette traversée-là, vraiment, vraiment en équipe.
Donc tu disais peut-être une quinzaine de personnes au total dans le voyage. Donc on s'imagine bien que c'était pas tout le monde en même temps dans un 45 pieds, 15 personnes. Donc vous avez changé de membre d'équipage au cours du voyage. Ça se fait comment ça dans le Nord canadien?
Bon, c'est à peu près comme tous les grands voyages. J'ai déjà organisé quelques traversées, là, entre autres des Amériques puis du Sahara en véhicule. Ça demandait une logistique avec le véhicule, avec les équipages, les personnes qui venaient voyager avec moi. Mais j'étais loin de me douter que la logistique serait aussi difficile que faire la traversée du Nord-Ouest en voilier en 2013, faut dire. Et en équipage varié successif. Parce que oui, à Calais, tu peux loger 6 personnes à bord, mais quand autour de toi, tu as plusieurs personnes qui sont intéressées, puis finalement on est une quinzaine, ben là, il faut s'arranger pour que tous ces gens-là puissent, selon ce qu'ils veulent voir du passage, selon leur disponibilité de temps, selon aussi la connivence entre les personnes. Et ça, donc j'ai réussi à faire ce puzzle-là. Premièrement, comme je le disais, en connaissant vraiment la bête, okay? Parce que le passage nord-ouest, on en parle, peut-être qu'après le balado, les gens vont mieux le comprendre, mais quand tu t'attaques au passage, en tout cas dans ces années-là, c'était quelque chose de, c'était littéralement une montagne de glace aussi. Donc ce que j'ai fait pour essayer de planifier la... Ce que j'ai fait pour planifier le voyage et faire entrer tout l'équipage dans les différentes escales, j'ai commencé par bien comprendre c'est quoi l'itinéraire qu'il fallait faire, donc quelles sont les escales, et quelle était la fenêtre de temps qu'on avait. Et ça, je me suis fié aux cartes de glace des 2 années précédentes. Donc sur le site de la garde côtière, j'ai téléchargé ces 2 saisons-là de glace, et c'est là que j'ai pu voir que, ah, ok, si on arrive autour du 1er août à Panne Inlet, on serait en mesure, selon ces cartes-là toujours, de sortir au plus tard la mi-septembre dans le détroit de Bering, à Nome. Ça, cette fenêtre-là, c'est ça qui m'a permis ensuite donc ça donnait à peu près, en fait, à peu près 3 mois de voyage si on considère que le voyage partit de Dorval, ok, jusqu'à Nome. Et ça, donc, sur les escales, j'ai fait ces tronçons-là, j'ai offert ça aux amis, et ça s'est naturellement forgé comme ça. J'étais assez chanceux. Chacun a pris une place dans et voilà, c'est comme ça que les équipes se sont formées. Mais c'est sûr que comme on va dans un milieu avec des glaces, les glaces, oui, se déplacent avec les courants. Mais se déplace aussi beaucoup, beaucoup plus avec le vent. Chose qui, bon, ceux qui ont vu la présentation de cette conférence-là, où je montrais toutes les cartes de glace jour après jour, vous verriez que les années 2011 et 2012 étaient tout à fait libres de glace comparées à celles de 2013. Donc, on a dû composer aussi avec cette année-là, qui avait plus de glace que 2 années précédentes, et qui a demandé donc de s'adapter. Il y avait beaucoup d'imprévus, donc la glace nous bloquait. Ça nous a permis de visiter autre chose, de découvrir le paysage autour, découvrir des villes qui n'étaient pas sur notre itinéraire. Donc, quand on part dans un voyage comme ça, je dirais à tous ceux qui veulent le faire, là, prévoyez qu'il y aura des imprévus.
Oui, ça, on peut s'y attendre. Donc, ce n'est pas parce que la glace n'était pas là l'année passée qu'elle va être à cette date-là, qu'elle ne sera pas là l'année où on y va à cette même date. Donc, il y a quand même de l'imprévisible de ce côté-là. Et là, ça fait en sorte que si tu as un équipage qui doit arriver d'un endroit ou un équipage qui doit partir d'un endroit, donc ça fait en sorte que les dates prévues vont peut-être avoir besoin de changer finalement. Puis ça vous est arrivé?
Le premier équipage qui devait se rendre à Pond Inlet, on a failli les faire diverger vers une autre ville, puis finalement on a compris rapidement là, que déplacer un équipage vers une autre ville dans le nord, là, c'est pas comme aller en Floride, hein. Ça coûte 2, 3, 4 000 piastres, se rendre-là. Donc, c'était l'autre chose qui nous a convaincus de, bon, s'en tenir à ce qu'on avait comme itinéraire. On a récupéré l'équipage, une journée plus tard, mais c'est rien, là. Donc, c'est aussi le souci qu'on avait économiquement de déplacer des équipages dans dans l'Arctique. Ça peut être assez coûteux.
Voilà qui termine notre premier de deux épisodes sur le voyage d'Akalef aux mers polaires du Nord-Ouest avec Jean-Gilles Lemieux. Pour la suite, passez à l'épisode suivant. Voilier sur les ondes est une réalisation de Jade Paradis au cœur et de moi-même. La musique est tirée de l'album Line and Loops de Maude Blanchet, disponible sur Bandcamp. Encore une fois, nous tenons à remercier Jean-Gilles Lemieux pour ses belles évocations du Nord. Finalement, si vous avez aimé, nous serions bien contents que vous partagiez cette balado avec vos amis voileux et voileuses. Vous pouvez nous trouver sur la page Facebook de Voilier sur les ondes, sur votre application de podcast ou encore en ligne sur le site Anchor, comme une encre en anglais, au anchor.fm/voilier sur les ondes. Merci et à la prochaine. Over.